Vous allez écouter une chronique enregistrée par les élèves de la classe 5e média du collège François Raspail de Carpentras à l'occasion de la fête de la radio pour célébrer ses 100 ans et les 40 ans de la libération des ondes.
Régulation audiovisuelle et création du CSA.
Qui régulait les radios à l'époque de l'ORTF ?
En 1972 est créé le Haut Conseil de l'audiovisuel, une entité consultative française, placée initialement auprès de l'Office de radiodiffusion-télévision française, ORTF. Il fut la préfiguration des autorités indépendantes successives instituées à partir de 1982. Par la suite, la haute autorité est créée par la loi du 29 juillet 1982. Elle était en outre chargée jusqu'en 1986 de garantir l'indépendance du service public de la radiodiffusion sonore et de délivrer les autorisations en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. De 1986 à 1989, la Commission nationale de la communication et des libertés, souvent abrégée en CNCL, était l'organisme français de régulation de l'audiovisuel. Il fut présidé par Gabriel de Broglie. La CNCL a été créée par la loi du 30 septembre 1986, dite loi Léotard. C'est durant le mandat de la CNCL que fut privatisé TF1 et que furent réattribuées les 5e et 6e chaînes de télévision, la 5 et M6. Mais quand est apparu le CSA ?
Le CSA est né en 1989, succédant à la Commission nationale de la communication et des libertés. Il tire cependant sa mission d'une précédente loi, la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. Celle-ci confirme et amplifie le tournant dans l'histoire de la télévision et des radios françaises qui avait été amorcé au début des années 1980, celui du passage d'un monopole d'État à un secteur ouvert, qui voit coexister des médias de service public et des médias privés. La loi de 1986, modifiée à plusieurs reprises depuis, affirme la liberté de communication audiovisuelle, sous réserve de respecter un certain nombre de grands principes forts de la République française, tels que la dignité de la personne humaine, la liberté et la propriété d'autrui, le pluralisme ou encore la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'ordre public. Le rôle du CSA est-il toujours le même aujourd'hui ?
Depuis 1989 et jusqu'à aujourd'hui, en plus de garantir la liberté de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a vu sa mission générale s'élargir et s'adapter au rythme des mutations technologiques, économiques et sociales. Loin de la réduire au rôle de gendarme de l'audiovisuel, la loi lui confie des missions qui recouvrent à la fois la protection de la liberté de communication, le respect des personnes et du public, la régulation technique et économique du secteur et des actions d'intérêt général et de cohésion sociale. Le CSA délivre par exemple les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques pour la diffusion de chaînes de télévision ou de radio. Il s'assure que les programmes diffusés respectent la réglementation en matière de protection des mineurs, de traitement de l'information, d'organisation des campagnes électorales, de représentation de la société. Des compétences spécifiques lui ont été confiées concernant l'audiovisuel public, répondant notamment à des exigences d'indépendance de ces entités.
Merci Imen et merci Ilana. Et maintenant, nous recevons dans cette chronique sur la régulation audiovisuelle et la création du CTA, Monsieur Olivier Bourgier, secrétaire général du CTA de Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent aujourd'hui parmi nous. Nous allons revenir sur quelques sujets, voilà, peut-être pour éclaircir un petit peu les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Le CTA et le CSA, ce sont la même chose, le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CTA plus régional, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
C'est tout à fait ça. Le CTA, c'est l'instance délocalisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en région. Alors, les ressorts territoriaux des différents CTA ne collent pas nécessairement aux régions administratives. Pour le CTA de Marseille, le ressort, c'est la région PACA, donc le 04, 05, 06, 13, 83, 84 et la Corse.
Et présentez peut-être un peu le CTA de Marseille. Qui travaille ? Vous, bien évidemment.
Alors, le CTA de Marseille, c'est 3 agents permanents, une assistante, un attaché technique audiovisuel qui, lui, est plus chargé de la partie contrôle et accompagnement technique des opérateurs radio et télé. Et moi-même, donc, je suis plus occupé par la partie administrative, juridique, qui consiste aussi à beaucoup d'accompagnement des opérateurs. Également, qui dit comité, dit donc une présidente, en l'occurrence pour le CTA de Marseille, qui est également, par la loi, nécessairement un magistrat de l'ordre administratif, pour des questions d'indépendance, évidemment, de compétences juridiques. Et puis six membres nommés de par leurs fonctions, leurs compétences plus ou moins proches en matière d'audiovisuel. Et puis on essaye aussi d'avoir une répartition géographique plutôt cohérente, ce qui permet pour moi, pour le Conseil, d'avoir un relais quand on est une question concernant un opérateur. Donc la présidente du CETA de Marseille est nommée par le vice-président du Conseil d'État et les membres des comités sont nommés par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Donc quand nous, on vous restitue notre dossier, notre compte-rendu de fin de saison, c'est par vous que ça passe ? Et aussi par le comité ?
Tout à fait. C'est une obligation pour tous les opérateurs, y compris les opérateurs temporaires, de nous fournir un rapport sur le fonctionnement de la radio lors de l'année écoulée.
Alors peut-être on peut expliquer aussi cette spécificité radio temporaire et radio définitive. Pourquoi ?
On va dire qu'une radio est jamais définitive, mais le système, c'est un système d'autorisation en France, donc sur sélection dossier. Et puis la seule exception d'émettre hors autorisation pérenne, c'est les autorisations temporaires qui, depuis alors quelques années, je ne sais plus, sont aujourd'hui permettent d'émettre pendant 9 mois, justement, et vous en êtes un bel exemple, pour coller en général aux années scolaires ou universitaires.
Ça, c'est le maximum, 9 mois.
9 mois, c'est le maximum. Donc c'est précaire. Ça veut dire que si vous souhaitez une nouvelle autorisation, et vous le savez, il faut nous refaire un dossier complet et faire une nouvelle demande qui n'est... Une nouvelle autorisation n'est jamais acquise. On essaye quand même, je pense qu'encore une fois, vous pouvez le confirmer.
Du moment que le travail est fait.
Du moment que le travail est fait, mais il y a aussi une partie technique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, non pas un souci, c'est un constat, c'est que la bande FM est saturée et qu'il faut arriver à dégager, à trouver, à placer une fréquence avec une petite puissance pour vous permettre d'émettre.
Avec les fréquences qui sont autour, bien évidemment, puisque notre fréquence, par exemple, le 102.2 peut être utilisée à peut-être quelques kilomètres, une trentaine ou une cinquantaine de kilomètres autour. Voilà, effectivement, pour éviter les brouillages.
C'est ça.
Alors, pour finir aussi, vous venez visiter les studios régulièrement, vous le faites dans le cadre des 100 ans de la radio et des 40 ans de la libération des ondes cette semaine. Pourquoi est-ce que vous visitez des studios ? Ça, c'est aussi une de vos priorités.
On travaille beaucoup sur dossier, notamment lors des sélections. Après, c'est une chose d'avoir un dossier, c'en est une autre de vous voir travailler dans vos locaux, dans vos studios, ce qui est aussi valorisant pour les opérateurs. Et puis, encore une fois, on ne peut pas faire passer sur dossier ce que vous faites aujourd'hui d'accueillir des enfants comme ça et le rôle énorme et important que vous avez en matière d'éducation aux médias. Donc, c'est notre rôle d'accompagnement qui représente la majorité de notre travail.
Mais en tout cas, monsieur Olivier Bourg, donc je rappelle, vous êtes secrétaire général du CTA de Marseille, merci. Merci aussi de nous faire confiance depuis 2013, puisque la première fréquence temporaire d'RTVFM, c'était en 2013, donc ça fait quelques années maintenant.
Et puis, je ne suis pas le seul à vous faire confiance, mais pour ça qu'il y a un comité qui, lui, dans votre cas, décide. Moi, j'ai instruit le dossier, je donne toutes les informations au comité, et cette collégialité, cette indépendance et la compétence des membres font qu'on autorise, je pense, des bons projets.
Merci monsieur Olivier Bourgier, donc on se retrouve demain pour l'avenir de la radio de la FM au DAB+, et on en parlera puisqu'elle va arriver prochainement, notamment le lancement du DAB+, sur Avignon.
Vous venez d'écouter une chronique enregistrée par les élèves de la classe 5e Média du collège François Raspail de Carpentras. À l'occasion de la fête de la radio, pour célébrer ses 100 ans et les 40 ans de la libération des ondes.